France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui,
Stéphane Malat, mathématicien, professeur au Collège de France.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Les mathématiciens attachent une grande importance à l'élégance de leurs méthodes et de leurs résultats. Ce n'est pas là du pur dilettantisme. Qu'est-ce qui nous donne en effet dans une solution, dans une démonstration, le sentiment de l'élégance? Eh bien, c'est l'harmonie des diverses parties, leur symétrie, leur heureux balancement. C'est en un mot tout ce qui met de l'ordre, tout ce qui leur donne de l'unité, ce qui nous permet par conséquent d'y voir clair et d'en comprendre l'ensemble en même temps que les détails. L'élégance peut provenir du sentiment de l'imprévu par la rencontre inattendue d'objets qu'on n'est pas accoutumée à rapprocher. Là encore, elle est féconde puisqu'elle nous dévoile ainsi des parentés jusque-là méconnues. Elle est féconde même quand elle ne résulte que du contraste entre la simplicité des moyens et la complexité du problème posé. Elle nous fait alors réfléchir à la raison de ce contraste et le plus souvent, elle nous fait voir que cette raison n'est pas le hasard et qu'elle se trouve dans quelques lois insoupçonnées. En un mot, le sentiment de l'élégance mathématique n'est autre chose que la satisfaction due à je ne sais quelle adaptation entre la solution que l'on vient de découvrir et les besoins de notre esprit. Et c'est à cause de cette adaptation même que cette solution peut être pour nous un instrument. Henri Poincaré, 1908, extrait de l'ouvrage « Science et méthode ». Bonjour Stéphane Malat.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes un mathématicien en quête d'élégance, comme l'évoque dans ce texte Henri Poincaré?
Je pense qu'on est tous en quête de cette élégance, et ce texte d'Henri Poincaré est très profond parce qu'il montre tous les aspects de cette recherche mathématique. Henri Poincaré, c'était aussi un physicien, c'est quelqu'un qui a beaucoup pensé au rôle des mathématiques, au rôle de l'intuition des mathématiques, à la transmission des mathématiques et le rôle de la logique. Ouais. Et il voyait ça, tout comme les mathématiciens, comme un langage, mais derrière le langage, il y a des idées et il n'y a pas que la logique. Et ça, c'était un des points très fondamentaux.
Ouais. Est-ce que cette image de beauté, voire d'élévation, correspond à toutes les mathématiques, qu'elles soient théoriques ou appliquées? Est-ce qu'il y a la même recherche?
Oui, parce que les mathématiques, c'est vraiment un chemin qui va aller du monde tel qu'il est, des questions qu'on se pose, à une formalisation, une façon de penser le monde. Et puis, il y aura une forme d'autonomie où on pourra penser avec ces concepts mathématiques et faire un retour. Donc, il n'y a pas d'opposition, c'est vraiment un chemin. Et dans ce chemin, on peut se positionner à différents endroits, soit travailler plutôt sur ce pont, ou alors travailler véritablement sur l'avancée des concepts abstraits suivant l'intérêt de chacun.
Et cette recherche de l'élégance, Stéphane Malat, est-ce que vous la recherchez en toute chose au-delà même des mathématiques dans notre vie ou pas?
Cette recherche de l'élégance, oui, je la recherche, mais je pense que je ne suis pas différent des autres. On la recherche quand on danse, on la recherche peut-être aussi dans les liens, aussi entre nous, dans la simplicité des liens, oui. Mmh.
Pourquoi vous citez la danse tout de suite, comme ça, d'emblée?
Parce que là, j'y
pensais. Vous êtes danseur, vous-même?
Oui, parce que j'aime danser sans être particulièrement doué pour cela, mais c'est quelque chose que j'aime. Et on pense, quand on regarde un danseur, immédiatement à l'élégance.
Oui. Est-ce que vous pensez mathématiques quand vous dansez, Stéphane Malat?
Non.
Non,
justement,
jamais.
Non. Je pense que c'est d'un ordre totalement différent de la communication, très, très différent.
Puisque nous évoquions Henri Poincaré, je vous propose d'écouter une archive de 1953. Elle est extraite du journal Parler de la RTF.
J'ai dans ma classe à Nancy un monstre de mathématiques, c'est Henri Poincaré. Ainsi s'exprimait Eliot un jour en 1872. Poincaré avait 18 ans. Un an plus tard, il entrait premier à l'école polytechnique et il est devenu un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Mathématicien il était, mais aussi physicien, astronome, mais encore écrivain et philosophe. À 30 ans, Henri Poincaré découvre les fonctions fuchsiennes du nom de Fuchs, qui avait publié un ouvrage essentiel, mais incomplet, sur les équations différentielles linéaires. Découverte capitale, car elle donnait la clé de nombreux problèmes jusque-là insolubles.
Voilà, court portrait de ce grand mathématicien Henri Poincaré. Est-ce qu'il figure dans votre panthéon personnel des mathématiques, Stéphane Mala ?
Oui, je me suis rendu compte que finalement mon chemin m'avait amené exactement dans les pas d'Henri Poincaré, très loin derrière, parce que c'est un mathématicien extraordinaire, mais ses conceptions, comme je le disais, du lien entre les mathématiques et l'utilité, non pas immédiate, mais cette recherche du général, cette façon de penser l'enseignement, où on ne met pas d'abord l'abstraction, mais on crée un chemin de l'abstraction, oui. Cette façon de penser l'intuition en mathématiques, oui, je suis très admiratif de l'ordre de Poincaré.
Et là, on entend vraiment la diversité aussi de ses centres d'intérêt, parce qu'il est non seulement mathématicien, physicien, philosophe, astronome. Ça, oui. C'est des figures qu'on est capable de trouver aujourd'hui chez les scientifiques français ou pas ?
Oui, il y a des mathématiciens qui font ce pont, et donc on appelle ça maintenant des mathématiciens impliqués, mais c'est vrai qu'historiquement, les mathématiciens étaient le plus souvent sur des ponts. Si on pense à Gauss, qui était considéré comme le prince des mathématiciens, c'était aussi un astronome, Newton, ouais. Était aussi un physicien. Donc, en cela, ça a été un chemin très naturel jusqu'au 19e siècle. Et puis, c'est vrai qu'au 20e siècle, il y a une forme de spécialisation où on s'est concentré plutôt sur la partie purement abstraite, on appelait ça des maths pures, ouais. Ou plutôt sur l'interface. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de scientifiques qui font des chemins aussi larges que Poincaré l'a fait.
Mais c'est votre cas à vous, justement, Stéphane Mala, on va en parler pendant cette émission, vous qui venez de recevoir la médaille d'or du CNRS, c'est la plus haute distinction scientifique dans notre pays, qui récompense justement vos travaux de recherche à la fois théoriques et appliqués. Vous êtes mondialement reconnu pour vos travaux sur les ondelettes, le traitement du signal et l'analyse des réseaux de neurones, on va détailler tout ça dans un instant, et c'est l'occasion donc de revenir sur votre parcours pour comprendre ce qui vous a amené précisément sur le chemin des mathématiques. Vous qui êtes né en 1962 à Suresnes, qu'est-ce que vous pouvez d'abord nous dire de votre histoire familiale ? On plante le décor un petit peu là de votre environnement intime.
Alors mon histoire familiale, d'abord mon père qui est né à Salonique, qu'on a envoyé à l'âge de 14 ans en 1934 à Paris, et qui avait été dans un lycée français et comme jeune grec, on lui a enseigné nos ancêtres les Gaulois, on lui a enseigné la littérature française, et il a développé une véritable admiration pour les Lumières, pour ses grandes idées. Là, c'était le moment où la France avait une radiation intellectuelle extraordinaire. Et puis, il est aussi devenu un ingénieur, et donc son monde a toujours été entre les sciences, les livres, la littérature. Et
Dans quel domaine il était ingénieur ?
Il était ingénieur en pétroléochimie. Et donc, il a participé à ce qu'on a appelé la reconstruction en 1945. Et puis, de l'autre côté, il y a ma mère qui, d'une certaine manière, était un peu plus rebelle, puisque elle est devenue médecin en se cachant, en ne le disant pas à ses parents, parce qu'à l'époque, ma mère, maintenant, a plus de 100 ans. À l'époque, une jeune fille n'était pas censée devenir médecin, en tout cas pour ses parents, ouais. Et qui elle-même a tracé un chemin entre, d'un côté, la science et puis l'humain, un médecin.
Ouais. Est-ce que votre maman de 100 ans était présente à la cérémonie de la médaille d'or du CNRS,
hein ? Oui, elle était présente, absolument. Ouais.
Et alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit de ça ? De voir son petit-fils recevoir cette distinction ?
Je crois qu'elle était émue et en même temps intéressée par tout ce qui a été montré au cours de cette cérémonie et les nombreuses personnes qui ont participé.
Stéphane Mala, il y a donc du sang grec en vous. La Grèce antique a été le berceau de très grands mathématiciens, comme Pythagore par exemple. Comment est-ce que vous expliquez d'ailleurs que ce pays occupait une place centrale pour les mathématiques et qu'est-ce qu'elle a apporté de décisif au cours de cette histoire précisément ?
Alors, la Grèce antique, ça a été l'apparition, évidemment, de la démonstration. Cette idée que on peut montrer des propriétés totalement générales avec une infinité de cas à travers un argument, comme ça peut l'être sur le théorème de Pythagore, théorème de Thalès. Donc, ça a été vraiment le début de la démonstration et d'une certaine manière de la mystique des mathématiques. Ça a été les pythagoriciens, c'était une véritable religion et mystique des mathématiques et de la beauté de la distribution des nombres. Et donc ça a été une composante forte, mais les mathématiques ont
sont apparus bien avant. Il y a 4000 ans, les Égyptiens faisaient de la géométrie, mais c'était pour calculer la surface des champs, pour le lever l'impôt, ou c'était de l'algèbre pour le commerce. Ouais. Donc il n'y avait pas cette composante de démonstration, et c'est le moment où finalement ces deux lignes se sont vraiment rencontrées.
Et alors vous, à quel moment vous rencontrez les maths, justement ?
Alors moi, j'ai rencontré les maths tout jeune comme élève. Je dois dire que ça m'offrait une sorte de bulle que j'aimais ou pensais à un problème. Quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup influencé, frappé, comme c'est souvent le cas, ça a été un professeur, Monsieur Rabani, ça reste Monsieur pour moi, en première terminale, qui nous faisait un cours de maths superbe, mais surtout transmettait cet amour des mathématiques, cette admiration, la beauté pour lui des mathématiques. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important, parce que au-delà de la technique, au-delà des résultats, il y a le sens, il y a ce sens de la beauté dont vous parliez. Et ça, ça fait partie de la transmission humaine, émotionnelle, très importante, on en parlera peut-être, qu'on n'aura pas, par exemple, avec des IA qui peuvent, malgré tout, être très utiles, mais apporteront autre chose. Donc oui, pour moi...
Et ça, vous avez un souvenir de cette émotion, justement, dans la rencontre avec les mathématiques ?
Oui, c'est-à-dire qu'il faisait un tableau superbe, il nous en parlait de façon émotionnelle, et en même temps, il était dans cette lignée de mathématiques pures, ce qu'on a appelé les mathématiques modernes, où les mathématiques n'existaient que dans leur abstraction pure. Donc à ce moment-là, à la fois, c'était très beau, on savait qu'il y avait des applications, mais on n'y passait pas de temps parce que ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Ouais. Et donc, le lien tel que Poincaré peut le faire, il n'était pas si présent.
Donc, vous avez déjà cet intérêt pour l'abstraction, mais aussi pour des choses très concrètes, parce qu'il paraît que vous étiez très attiré par la menuiserie quand vous étiez petit garçon.
Oui, comme pas mal de garçons, jeunes filles, je faisais des Legos, du mécano et de la menuiserie. Je dois dire que j'aimais beaucoup la menuiserie. Et là aussi, c'était un monde où je me sentais bien, ce qui fait que finalement, moi, je me projetais comme ingénieur. Alors, il y avait mon père, bien sûr, mais le fait de faire comme ça des plans et puis réaliser quelque chose et que ce quelque chose soit utile et ensuite soit utilisé par d'autres, c'était quelque chose qui me satisfaisait beaucoup.
Quel type d'objet vous avez créé très jeune alors comme
Alors,
ça
toutes sortes de choses, des commodes, des jeux d'échecs.
Ah oui, quand même, des commodes.
Oui, des petits placards, un distributeur automatique de chewing-gum avec un ami, Pierre Moreau, parce qu'il y en avait partout dans le métro. Voilà, toutes sortes de choses comme ça.
Donc ça, c'est vos premières réalisations. Avec, vous dites, ce souci de faire quelque chose d'utile, c'est toujours votre souci en maths, ça, ou pas ?
Oui, mais il y a quelque chose de très ambigu dans l'utilité, ça veut dire... Et ça, à nouveau, Poincaré le décrit très bien, c'est-à-dire, oui, c'est important parce que ça montre que l'on touche quelque chose. En même temps, quand on fait de la science, le but, c'est pas forcément une application. On a envie de monter vers quelque chose de plus général, de manière à toucher des applications très diverses. C'est un peu une des spécificités de la généricité des maths. Mmh. Donc, oui, c'est important pour moi. Et en même temps, il y a cette recherche des concepts généraux qui vont permettre de toucher autre chose que l'application spécifique sur laquelle je travaille éventuellement.
En tout cas, on va voir que vos créations aussi en mathématiques se sont invitées très concrètement dans nos vies. On va le découvrir dans un instant. On va parler aussi de l'intuition, qui est une composante importante de votre parcours. Stéphane Mallat, vous êtes notre invité au carré.
France Inter, Mathieu Vidard, La Terre au carré.
Le pays des mathématiques est un endroit exotique et déroutant. On y parle une langue bizarre, pleine d'homéomorphismes, de variétés différentielles, de nombres transfinis. Mais on y rencontre aussi des paysages épiques, des idées vertigineuses et même parfois des choses utiles.
Extrait de la chaîne YouTube Le Blob en 2021, Stéphane Mallat, mathématicien, médaille d'or du CNRS, vous êtes notre invité cet après-midi. On entend dans cet extrait quasiment une épopée autour des mathématiques. Vous le vivez comme ça, vous, le fait d'être plongé dans cette discipline ?
Oui, alors j'étais aussi
frappé par et même parfois des choses utiles. En fait, c'est pas et même parfois des choses utiles, mais c'est souvent ces concepts sont issus au départ de questions qui venaient du monde et puis qui sont devenus des idées abstraites extraordinaires.
Ouais, on parlait justement très rapidement tout à l'heure de l'abstraction, aussi de l'importance de l'intuition. Est-ce que vous avez eu des maîtres en la matière ? Est-ce que ça s'apprend, l'intuition en tous les cas en mathématiques ?
Je pense que c'est quelque chose qui se transmet effectivement quand on fait sa thèse. Avant tout, on va se poser des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et il va falloir imaginer un chemin. Et quand on imagine un chemin, ça passe par l'intuition. Et ensuite va se dérouler les étapes de la logique, de la démonstration. Mais avant tout, il faut sentir pourquoi un résultat est vrai et par où on va passer, exactement de la même façon que quand on se balade dans un paysage un peu inconnu, il faut avoir un sens de l'orientation avant de chercher exactement le sentier qui va vous mener là où vous voulez aller.
Donc ça, c'est très sensible, en fait, comme sentiment.
C'est très sensible. Il y a une grande part d'inconscient, même ça, à nouveau, Henri Poincaré le disait très bien. Et il faut s'habituer, au départ, à un peu lâcher la logique, le calcul pour sentir. Et puis, il y a un moment où il faut revenir à la logique et au calcul. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi avoir des automatismes, il faut aussi avoir du savoir technique. Donc, c'est un mélange de ces deux aspects. Mais ça, c'est propre à tous les domaines. Si vous parlez à un écrivain, il a aussi de la technique et puis il va aussi avoir une vision qu'il veut transmettre.
Donc, c'est des moments de respiration, finalement, entre ces différents états.
C'est des passages de l'un à l'autre, absolument. Ouais.
Alors, je vous demandais si vous avez eu des maîtres en la matière. Est-ce qu'il y a des noms comme ça qui émergent spontanément pour vous?
Oui, moi-même, j'ai eu en quelque sorte des mentors. D'abord, ma directrice de thèse, Rujena Baiji, qui, elle, était plutôt un ingénieur qui avait une grande admiration pour les mathématiques, mais qui était attaché aux applications et à des applications très concrètes sur la vision, sur la robotique. Et de l'autre côté, j'ai eu comme autre mentor qui a été très important pour moi, Yves Meyer, qui est un très grand mathématicien.
Ils sont toujours en vie tous les deux.
Ils sont tous les deux.
Presque centenaires d'ailleurs aussi.
Centenaires tous les deux. Et qui avait un talent extraordinaire pour trouver des très belles démonstrations, passer là où d'autres ne passaient pas. Et en même temps, avait envie de faire des applications sans l'avoir fait lui-même. Donc finalement, je me suis retrouvé au milieu de ces deux influences.
Vous avez travaillé avec ces deux personnes ou pas ?
Oui, j'ai travaillé de façon proche avec Rujena, puisque j'étais son élève de thèse. Mmh. Et puis avec Yves Meyer, on s'est rencontrés suite à un article qu'il avait publié où j'avais la possibilité de trouver une solution au problème mathématique. Et on a travaillé pendant 4 jours à Chicago, comme ça, dans l'université. Et puis ensuite, c'est resté une forme de mentor de par sa façon d'appréhender la science et les mathématiques. Ça a été une forme de modèle pour moi.
On va écouter sa voix. C'était dans un enregistrement de France 3 en 1990, dans Quart d'heure mathématique, l'a transformé en ondelette, Yves Meyer.
Les scientifiques utilisent à l'heure actuelle les ondelettes comme un moyen de calcul et d'analyse sur les phénomènes transitoires et très irréguliers. Le mot « ondelette » doit être compris en pensant à une fluctuation. Et ces ondelettes ont différentes échelles. Et l'analyse par ondelette est basée sur l'idée qu'il se passe des choses différentes à différentes échelles dans les phénomènes irréguliers et compliqués sur lesquels porte cette analyse.
Voilà, et il répondait à l'une de vos questions d'ailleurs, Stéphane Mallat, en 1990, oui. Yves Meyer. Vraiment, les ondelettes, c'est le lien entre vous deux, parce que vous avez poursuivi finalement ces travaux sur la question.
Oui, ça a été le lien, parce qu'au départ, lui, il est venu d'un point de vue de mathématicien pur, ce qu'on appelle le domaine de l'analyse harmonique, pour résoudre une question en trouvant ce qu'on appelle ses bases orthogonales. Et puis, de l'autre côté, il y avait beaucoup de scientifiques en physique, en analyse de la musique, en traitement d'images, en traitement de signaux médicaux, qui
étaient arrivés à des outils similaires. Et finalement, il y a eu, à travers cette rencontre, une forme de catalyse, c'est-à-dire que les mathématiques sont devenues le pont entre toutes ces disciplines pour extraire le concept central qui a été cette notion d'ondelette. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les solutions aux problèmes mathématiques qu'avait initialement posé Yves Meyer, c'est-à-dire trouver toutes les classe d'ondelettes possible, eh bien, elle est venue, dans mon cas, par une intuition qui venait des applications, qui venait du traitement d'image. Parce que, comme le décrit très bien Yves Meyer, dans le cas du traitement d'image, les ondelettes, ça représente des détails à différentes échelles. Et donc, c'est une façon de voyager, un peu comme un zoom, à travers les échelles. Et quand on suit ce chemin intuitif, on arrive à comprendre quelles sont les propriétés fondamentales des ondelettes et comment les définir d'un point de vue purement abstrait, purement mathématique.
Alors justement, pour ceux qui nous retrouveraient à l'instant, qui se disent, mais de quoi il me parle, les ondelettes, qu'est-ce que c'est que ce truc exactement? Alors, on va parler des applications, ça va parler tout de suite à beaucoup de gens, mais juste sur la théorie, en fait, Stéphane Mallat, qu'est-ce que c'est?
Alors, qu'est-ce que c'est? Au départ, ça part d'une question, c'est-à-dire on a des masses de données et comment les représenter de façon la plus parcimonieuse, la plus économique possible. Quelles sont les structures fondamentales? Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour très grandes classes de données, à commencer par exemple par la musique, comment on va les écrire? Eh bien avec une partition de musique, avec des notes. Et les notes de musique ont différentes positions dans le temps, différentes durées, différentes hauteurs fréquentielles. Et ça, ce sont des ondelettes. Et la théorie mathématique a permis de comprendre que ces ondelettes qu'on pouvait rencontrer en musique, eh bien, elles sont de la même façon présentes, d'un point de vue plus abstrait et puis applicatif, dans toutes ces formes de données que sont des images, des électrocardiogrammes, etc.
Alors par exemple, dans les images, citez-nous un exemple d'une application très concrète issue des ondelettes qui va parler à tout le monde immédiatement.
Alors, la première application, bien sûr, ça a été la compression d'image, parce qu'une fois qu'on est capable de représenter une image, non pas avec un énorme tableau de 1 million de pixels, mais avec un nombre beaucoup plus réduit d'ondelettes, ça veut dire que le nombre de bits, d'octets pour représenter cette image dans votre ordinateur, va être beaucoup plus petit, beaucoup plus comprimé. Et c'est ce qu'on a appelé les standards JPEG, et pour les ondelettes, JPEG 2000.
Voilà.
Donc, du coup, il y a eu une application très pratique, très importante.
C'est ça. Et ça, on vous la doit directement.
Ça a été à nouveau un travail de beaucoup de scientifiques. Ce que j'ai fait dans mon travail, après ce travail mathématique sur les ondelettes, c'est mettre en place ce qu'on appelle l'algorithme rapide qui permet de calculer ces coefficients d'ondelettes, notamment pour des images. Et à partir de là, cet algorithme a été utilisé par les travaux de beaucoup d'autres ingénieurs pour en faire finalement un standard.
Stéphane Mallat, est-ce qu'il y a un lien direct entre les ondelettes et l'intelligence artificielle aujourd'hui?
Oui, il y a un lien direct parce que en intelligence artificielle, de la même façon, on va se poser la question à partir de données, quelle est la réponse à une question que je me pose? Et pour ça, il va falloir extraire de ces données les structures importantes qui vont donner l'information. Et la première étape, c'est souvent de représenter ces données sous forme d'ondelettes. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le système perceptif humain. Dans l'oreille, il y a une décomposition en ondelettes. Dans du son, dans le cerveau, le cortex visuel, il y a une décomposition en ondelettes des images qui nous arrivent sur la rétine. Donc ça, c'est la première étape. Mais l'intelligence artificielle telle qu'elle est maintenant avec les réseaux de neurones, va prendre ses coefficients et en extraire l'information. Et c'est là que les choses deviennent beaucoup plus compliquées et beaucoup moins bien comprises.
Alors justement, Stéphane Mallat, vous travaillez aujourd'hui sur les capacités de prédiction des réseaux de neurones. Lorsqu'on dit ça, on s'adresse à un neurobiologiste ou à un mathématicien alors?
Là, on s'adresse à un mathématicien appliqué. C'est-à-dire qu'il y a un mystère actuellement. On a ces réseaux de neurones qui ont ces performances extraordinaire qu'on voit, que ce soit pour les images, pour le langage, voire pour faire de la prédiction météorologique. Comment ça se fait que ces réseaux ont cette capacité? On comprend très bien l'algorithme.
Ouais.
On sait d'un point de vue informatique comment il fonctionne. C'est le résultat de beaucoup d'expérimentations et d'ingénieurs très talentueux. Mais on ne comprend pas pourquoi ça marche aussi bien. Et la raison, c'est qu'on ne comprend pas comment le réseau de neurones a été capable d'extraire la structure essentielle du problème qui permet de faire cette prédiction. Si vous imaginez le cas de la météo, actuellement, vous avez des réseaux de neurones qui font mieux que les prédictions de Météo France, qui, elles, se basent sur la physique qui a été découverte au cours des 2000 années précédentes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces réseaux de neurones, à partir de toutes les données passées, ils ont été capables, d'une certaine façon, de découvrir la physique qui va permettre de faire le calcul de l'évolution du temps et donc de prédire le temps qu'il va faire demain. Sous quelle forme cette connaissance est-elle agrégée dans ces réseaux? Comment ça se fait qu'ils ont été capables de le faire à partir de ces données?
On ne sait pas.
Tout ça, on ne le sait pas au sens mathématique, c'est-à-dire on sait que c'est là.
Donc on est capable de le construire.
On est capable de le construire, mais on ne comprend pas les maths.
Ouais. Et ça, c'est étonnant quand même, non?
Pas vraiment, parce que si on... Il y a un mythe qui est que, souvent en France d'ailleurs, que les mathématiques seraient là avant les applications. Si vous pensez par exemple à la construction de ponts, les Romains savaient construire des ponts, le pont du Gard, c'était il y a plus de 2000 ans, et il a fallu attendre à peu près aussi 2000 ans pour que Newton mette en place les mathématiques au XVIIe siècle qui ont permis le calcul différentiel de commencer à comprendre la mécanique qui était sous-jacente. Et il a fallu quelques centaines d'années de plus pour que ces mathématiques puissent créer des nouveaux ponts, comme les ponts suspendus, qui ont permis de révolutionner la construction des ponts. Donc c'est un chemin qui est très long. Là, ça a mis 2000 ans, et je pense que ça mettra beaucoup moins de temps comprendre les maths des réseaux de neurones.
On parle d'intelligence artificielle, on va parler aussi enseignement avec vous dans un instant. Les deux sont liés d'ailleurs aussi. Concernant l'intelligence artificielle, puisqu'on est quand même dans une émission d'écologie, l'IA générative pose aujourd'hui de gros problèmes en raison de leur caractère énergivore et des besoins en ressources pour les alimentaires. Pour les data centers également. Est-ce que ça, cet aspect des choses-là, vous préoccupe, vous intéresse, vous, en tant que mathématicien?
Oui, c'est clairement un des très gros problèmes. C'est une forme de barrière, d'ailleurs. C'est d'ailleurs un des enjeux des maths, c'est-à-dire mieux comprendre, ça veut dire permettre de faire les choses beaucoup plus efficacement et donc un moindre coût énergétique. À moins que, évidemment, ces systèmes grandissent encore beaucoup plus, et il y a toujours cette ambiguïté malgré tout, mais c'est clairement un souci majeur autour de l'intelligence artificielle.
Est-ce que vous pensez qu'on va réussir justement à réguler les choses, ou en tout cas à limiter l'impact écologique de cette IA aujourd'hui?
Alors ça, c'est la question de la régulation autour de l'IA. Moi, je pense que c'est absolument nécessaire. Il y a eu des voix qui se sont élevées très fortement en ce sens, comme Joshua Bengio et Geoffrey Hinton, qui montrent qu'il y a des vrais enjeux, que à la fois l'IA a des applications extraordinaires, potentielles, en médecine, voire même l'enseignement et en sciences, mais il y a aussi des dangers qui sont la face pile de ces avantages. Et c'est très important, d'autant plus de réguler, que ces technologies ne sont pas entre les mains de l'État, comme ça pouvait être le cas pour le nucléaire, mais entre les mains de sociétés privées, les GAFAM, qui évidemment ont des intérêts qui sont totalement différents. Donc je pense à la fois, oui, il faut réguler. En même temps, réguler, c'est quelque chose de difficile parce qu'il faut appuyer sur les bons boutons, à la fois pour permettre les bons aspects de ces technologies d'émerger, par exemple en médecine. C'est quelque chose d'important de permettre l'évolution de l'IA pour la médecine et en même temps d'éviter les abus.
Ouais. On va parler de l'enseignement dans un instant, parce que c'est une vraie question pour vous qui vous intéressez également à la transmission des mathématiques auprès des élèves et l'usage précisément aujourd'hui de l'intelligence artificielle. On en parlera dans un instant. Stéphane Mala, vous êtes notre invité au carré.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Souffrance, grisaille, désert. Un désert, ça semble morne et aride, et on sait bien qu'il y a des moments quand on sait où regarder, quand telle oasis, telle période, où ça devient quelque chose de magnifique, de luxuriant. Un mathématique, c'est comme ça. On peut croire que c'est le désert, mais quand on sait où et comment regarder, c'est plein de vie.
La voix du mathématicien Cédric Villani, qui était à votre place le 10 décembre dernier dans La Terre au Carré. Stéphane Mala, vous qui êtes notre invité cet après-midi. Souffrance, grisaille, désert, nous disait Cédric Villani. C'est des mots qu'on peut coller effectivement aux mathématiques. Hein. Il y a quand même cette perception toujours un petit peu de discipline compliquée. Hein.
Oui, il y a un moment où on sèche, il y a un moment où on est un peu perdu et il faut garder cet enthousiasme, cette foi pour passer à travers ces passages. C'est ce que Cédric ici appelle ces phases de désert. C'est tout à fait juste et c'est quelque chose où il y en a qui ont plus confiance et arrivent à traverser ces déserts. Il y en a d'autres qui sont plus angoissés et vont s'arrêter. Et c'est en ce sens que c'est très émotionnel, cette relation aux maths.
Pour la première fois en mars dernier, le CNRS a donné la parole aux citoyennes et citoyens sur leur rapport aux mathématiques. C'était une consultation nationale qui a montré que 70% des participants percevaient les mathématiques comme une matière sélective rigide où l'erreur est peu tolérée. J'imagine que ça ne vous a pas tellement surpris, mais c'est quand même un petit peu dommage, non, d'avoir cette perception de votre discipline ?
Oui, non seulement c'est dommage, mais c'est un impact très dommageable. C'est ce qu'on a appelé la crise des mathématiques actuellement de l'enseignement au collège et au lycée, où dans les grandes enquêtes internationales, le niveau des Français se sont effondrés et à la queue de tous les pays développés. Et ce qu'il y a derrière aussi, c'est cette perception des mathématiques. Et ça, d'une certaine manière, nous mathématiciens avons une forme de responsabilité dans la manière dont on a enseigné les maths. Ça a été l'influence beaucoup trop forte, d'une certaine façon, de ce qu'on a appelé à un moment les mathématiques modernes, c'est-à-dire une approche très abstraite des mathématiques où l'enjeu était d'abord au début dans l'abstraction et ensuite il faut trouver la réponse. Or, à nouveau, les mathématiques, c'est pas ça, c'est d'abord un chemin, c'est pas ça, c'est aussi ça, mais pour accéder à cela, il faut faire ce chemin, il faut prendre par la main les jeunes collégiens, les motiver dans le domaine où ils sont. Et puis, l'importance de l'erreur. Ça, c'est quelque chose d'important en France, on a tendance à pénaliser l'erreur. Or, on apprend qu'à travers les erreurs. C'est la base d'ailleurs de l'intelligence artificielle. Ces systèmes apprennent en réduisant progressivement leurs erreurs. De la même manière, il faut que les élèves n'aient pas peur de faire des erreurs.
Vous en avez fait beaucoup des erreurs dans votre vie de mathématicien ou pas, Stéphane?
On en fait en permanence, mais tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'on se lance, on se plante. Et on essaye à nouveau, on essaye de voir. Et d'une certaine manière, c'est aussi pour ça que le dialogue avec et le travail en commun est aussi utile. C'est que on trouve les erreurs les uns des autres et puis on avance ensemble. Donc oui, c'est tout à fait fondamental.
Comment on peut améliorer justement l'enseignement des mathématiques à l'école et au lycée? Ça fait quand même des années, voire des décennies, hein, qu'on pose toujours la même question. Vous avez lancé un programme qui s'appelle Matadata. Est-ce que c'est justement pour essayer de résoudre ce problème-là ou pas?
Oui, une partie. Alors, le problème des maths à l'école, il est très divers. Il y a beaucoup d'aspects, voire de statut des professeurs, de salaire et autres. Mais il y a, comme je disais, un aspect pédagogique et c'est là-dessus qu'on travaille en partenariat avec les professeurs d'éducation nationale. Et l'idée, c'est de partir de problèmes, en l'occurrence, des challenges, ce qu'on appelle des défis de données, des problèmes d'intelligence artificielle. Par exemple, savoir si un fœtus est sous stress ou pas pour engager une césarienne, ou reconnaître des structures dans des images, l'auteur d'un texte, et de réaliser que sur tous ces problèmes, c'est les mêmes outils de maths qui vont émerger. Et à partir de là, on peut faire émerger toutes les mathématiques du collège, du lycée, aussi bien la géométrique, les probabilités, les statistiques, l'analyse. Mais on les fait émerger à partir du problème. Et donc, on commence à se construire un chemin intuitif. Et ensuite, bien sûr, on fait des mathématiques dans leur abstraction. Et donc, on fait ça avec les professeurs de manière à essayer de comprendre comment ça peut s'intégrer dans leurs cours, dans le programme. Et l'objectif de Matadata, donc c'est toute une équipe qui travaille là-dessus, c'est de faire un passage à l'échelle. Ça fait 2-3 ans qu'on fait ça en partenariat aussi avec l'inspection et les profs. Et c'est de passer à l'échelle, c'est-à-dire d'essayer d'étendre ça sur beaucoup d'académies.
C'est une vraie promesse pour vous, selon vous, pour modifier le rapport aux mathématiques en France?
C'est un vrai enjeu. Ensuite, comme toujours dans ce genre de projet, on est enthousiaste, mais il faut que ça marche. Or, il faut ensuite se confronter au réel. Le réel, c'est une très grande diversité d'élèves, une très grande diversité de professeurs. Donc, il va falloir voir si on arrive à le faire. Mais oui, on pense que, en tout cas, on peut faire bouger les choses.
Stéphane Mala, vous qui travaillez sur l'intelligence artificielle, on voit à quel point elle bouleverse aujourd'hui complètement les pratiques scolaires. Et ça a été à une vitesse sidérante, hein, ces 2-3 dernières années. Est-ce que vous voyez ça aujourd'hui comme une opportunité pédagogique ou un vrai risque pour les apprentissages fondamentaux des plus jeunes aujourd'hui en France? Comment on navigue avec ça aujourd'hui?
Je vois ça comme un fait. C'est-à-dire que c'est là
et donc les professeurs sont confrontés à ça, et comment faire, comment s'adapter pour que le meilleur en sorte. Alors, on voit bien les avantages. Les avantages, c'est la possibilité de faire un tutorat personnalisé pour les élèves qui s'adaptent à leurs propres erreurs, leur proposent des exercices, une présentation du cours qui est adaptée. D'un autre côté, il faut voir que ce n'est pas du tout suffisant, pour beaucoup de raisons. D'abord, parce que quand vous avez une machine comme ça, qui parle l'anglais alors que vous ne parlez pas l'anglais, qui fait des maths beaucoup mieux que vous, qui est par capable d'écrire, pourquoi est-ce que vous-même vous le feriez ?
Exactement. Donc, on parlait des réseaux de neurones tout à l'heure pour le cerveau, c'est quand même une autre façon d'apprendre les choses. Hein.
Absolument. Il y a des similarités, mais ça c'est encore un sujet. Mais il faut qu'ils comprennent bien sûr que ces systèmes font beaucoup d'erreurs et donc avoir un esprit critique. Et il y a besoin de transmettre les fondamentaux. Alors pourquoi ? Parce que ces machines, elles travaillent sur les textes, sur Internet, sur des données qu'on leur donne, mais elles n'ont pas une expérience sensible du monde. Or, la créativité, elle vient de l'interaction, beaucoup de l'expérience sensible du monde. Et donc, on a besoin, de toute manière, et on garde notre rôle fondamental, de cette interaction. Et donc, dans cette présence de l'IA, il y a aussi un autre aspect, c'est qu'on n'apprend pas à partir d'une machine. Pourquoi ? Parce que, comme je disais, il y a une relation de sens émotionnel. On le voit en sciences cognitives, les bébés vont apprendre que de leurs parents ou des très proches, parce qu'il y a une forme de confiance. De la même manière, j'ai parlé de ce prof de maths qui, en terminale, m'a donné ce sens de la beauté des maths. Mmh. C'était une relation personnelle, c'était une relation émotionnelle. Donc, au-delà de la transmission de la technique, il y a une transmission du sens, il y a une transmission de l'admiration pour la matière, et tout ça, c'est au centre du rôle des professeurs.
Oui, mais sauf qu'on les voit très désemparés quand même, les enseignants, aujourd'hui, face justement au mastodonte de l'IA. Et ce que vous nous décrivez là, c'est théoriquement très intéressant, mais dans les faits, il y a quand même cet outil qui est d'une puissance énorme et qui est en train de tout rattraper, non ?
Absolument. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un travail sur le terrain pour comprendre comment garder les meilleurs des deux aspects. Et ce n'est pas du tout un travail théorique. Personne n'a la réponse actuellement. C'est un travail d'expérimentation. On essaye, on avance. Mais il faut simplement se rendre compte que les deux vont être présents. Et il faut comprendre la position du prof, comment il peut utiliser. Actuellement, les élèves font tous leurs devoirs à la maison avec ChatGPT, donc on ne peut plus l'utiliser. Mmh. Dans les lycées, ils ont leur portable sur les genoux avec TikTok et ChatGPT d'un côté et de l'autre, et donc sont constamment en train de le consulter. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'on ne leur donne pas, ou ils n'apprennent pas, évidemment, dans ce cadre-là, ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Donc, comprendre comment utiliser, le fait que le portable ne soit pas admis à l'école, c'est certainement une bonne chose, c'est l'enjeu actuellement qu'on a à avoir. Et donc, ce n'est pas une histoire de l'IA positive, l'IA une mauvaise chose, c'est comment faire avec l'IA.
Mais ça vous inquiète sur la façon dont on utilise notre cerveau aujourd'hui, sur nos capacités cognitives? Elles vont forcément aussi évoluer avec ces outils technologiques, là, ou pas?
Oui, elles vont évoluer, mais ce n'est pas pour autant qu'elles vont se dégrader. Ça veut dire qu'elles vont bouger. Et comme elles ont bougé dans le passé. Alors, quand on a 60 ans comme moi, on a tendance à se dire « Oh là là, c'est la cata, les jeunes, etc. » Mais non, ils sont en train de s'adapter eux-mêmes à un monde qui change.
Stéphane Mala, pour terminer, vous donnez des cours au Collège de France. Enfin, pas cette année parce que vous êtes en pause sabbatique et vous allez en redonner l'année prochaine. En tout cas, on peut déjà retrouver tous les cours que vous avez donnés depuis 9 ans. Et vous me disiez en antenne que vous donniez encore vos cours sur un tableau noir avec une craie. Pourquoi ?
Parce que la craie, c'est ce qui permet d'être beaucoup plus libre quand on fait son cours. Quand on a des slides, tout est déjà imprimé, les choses vont rapidement, il n'y a pas des points d'attention. La craie, c'est comme une façon de raconter son cours et on va réagir à ce que les uns et les autres disent. Donc, il y a une beaucoup plus grande liberté. Et puis aussi, je trouve qu'il y a un rythme qui est plus lent, qui est plus proche d'une certaine manière du conte et qui est plus approprié pour comprendre. Pas simplement avoir une image, mais petit à petit comprendre. Et il faut beaucoup de temps pour comprendre les mathématiques.
Et vous me disiez, ça permet aussi d'être emmené sur le chemin de l'improvisation aussi, et inattendu.
Oui, absolument. Le cours n'est pas écrit, ouais. Il va être écrit au fur et à mesure, et il y a des moments où on se plante, on ne trouve pas la démonstration. Et ça, c'est très intéressant aussi pour les élèves, parce que de voir que le professeur peut se planter, peut
essayer de chercher, et ce n'est pas une vérité révélée, il faut la retrouver, donc il y a un côté beaucoup plus vivant.
Donc pour ceux qui veulent retrouver la sensation de la craie qui crisse sur le tableau noir, il faut assister à vos cours au Collège de France ou les retrouver en vidéo parce qu'ils sont tous présents sur le site du Collège. Merci infiniment Stéphane Mala, médaille d'or du CNRS.
Merci beaucoup.
D'être venu à ce micro. Merci beaucoup à Anna Massardier qui a préparé ce dossier, Gilles Gaillard à la technique, Jérôme Boulet à la réalisation et Lucie Sarfati qui coordonne et programme nos Terres au carré.